Si, non, il y en a qui vont commencer à se connecter, qui sont déconnectés. J'ai vu un deux, à un moment donné, je fais, ah tiens, mais c'est ta femme peut-être. Parce que tu vois, je le vois toute la journée, ce con. Donc là, bon, allez. Et d'ailleurs, ma femme travaille avec tout ce qui est réseaux sociaux,
D'accord.
marketing, tout ça et tout. Donc si j'ai besoin ou quoi, c'est elle qui va faire mes réseaux sociaux.
Ah,
Comme ça, moi,
c'est
je
elle
suis
qui
fait pour.
s'occupe de tes réseaux sociaux?
Pas encore, pas encore. Il faut que je fasse le tri sur certains messages. Franchement, peut-être. Je veux pas qu'elle tombe sur des trucs un peu chelous, un peu alors que j'ai rien fait et que mais que voilà, c'est pas de ma faute.
Elle va venir
Je suis
agresser.
victime de certaines personnes.
Alors, je crois qu'on va commencer en fait. Alors normalement, je commence. Enfin, je demande à faire à ce qu'on fasse un blanc, parce que c'est pour le montage.
Un blanc.
Ouais, c'est-à-dire qu'on parle pas, on regarde la caméra, en fait, on fait un blanc. On regarde comme ça, en fait, on se dit. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast, en fait, qui reste nouveau puisqu'on est au troisième épisode
Troisième épisode.
de ce podcast de l'Impro Club Côte d'Azur. Dans ce podcast, on va parler d'un improvisateur de la Côte d'Azur qui fait ou qui va faire en fait un passage en fait à l'Impro Club. Il sera question de son parcours, de ses envies, d'impro aussi. Voilà, et tout ce qui fait un petit peu sa vie d'improvisateur et de comédien.
Ok.
Aujourd'hui, alors, nous recevons Jérémy Desrochers, comédien, improvisateur, il fait partie de la compagnie En Décalage, auteur de Seul en scène, quand je dis auteur de Seul en scène au pluriel, et coach en humour, homme de l'ombre,
Voilà,
quelque part. Homme de l'ombre,
moi je le
quelque part.
cache.
Voilà, ouais, c'est ça. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah, très très bien, très bien. Je vois que t'es pas trop dans la lumière, mais
Là,
moi ça me va, tant que je
bah,
suis.
tout à fait, ouais. Voilà, déjà, voilà, tu n'avais pas ton meilleur profil, là, au moins, tu étais dans la lumière.
Ouais, là vous voyez pas mon meilleur profil. Il perd un truc, il perd un truc.
Alors, aujourd'hui, en fait, c'est un peu spécial. Il y a le Cozy Comedy Club qui nous reçoit pour l'enregistrement du podcast. Donc, on remercie par avance bah, le Cozy de nous recevoir dans ce joli décor, dans cette superbe salle.
Merci Omar.
Merci Omar. Voilà, bah, on vous rappelle qu'il y a une programmation à l'année au Cozy Comedy Club. N'hésitez pas bah, à aller sur le site du Cozy Comedy Club pour voir la programmation et voir tous les spectacles de stand-up, mais aussi d'improvisation qui se passent. Voilà, l'improvisation est programmée par Marco et ici, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de découvrir le lieu, bah, si vous voulez avoir de l'impro ou du stand-up, n'hésitez pas à aller voir au Comedy Club. Du coup, pour revenir à toi, Jérémy, si tu étais une définition de dictionnaire, en fait, comment tu te définirais? Tu serais à quelle lettre?
Définition de dictionnaire
Ouais,
ou une définition dans le dictionnaire?
si
Parce
tu
que
étais une
sinon.
définition dans le dictionnaire.
Ah, d'accord, c'est autre chose. Qu'est-ce que je serais? Euphorie.
Tu serais euphorie.
Ah ouais, le mot euphorie. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aime bien ce mot.
T'as bien ce mot,
Ouais.
oui. Avec un F, parce que ça fait feu. Euphorie.
Ok,
Et si tu
d'accord.
devais définir comme. Est-ce que tu avais une définition de dictionnaire, ce serait laquelle?
Une définition?
De dictionnaire, ouais, ce serait laquelle? Comment tu te définirais toi dans le dictionnaire?
Ah,
À côté de
d'accord,
ton nom, en
ok.
fait, Jérémy Desrochers, en fait, qu'est-ce qu'il y aurait à côté?
Personne euphorique, parfois trop, qui peut fatiguer des gens et qui aime écrire des blagues pour les autres.
D'accord. Tout le temps pour les autres, en fait?
Non, bah après j'ai écrit aussi un peu pour moi et tout, tu vois, mais c'est vrai que j'aime bien écrire pour les autres, parce que si c'est une blague pourrie, c'est pas moi qui bide.
D'accord, ouais. Il y a un double check en même temps.
Non, 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 elles sont souvent bien écrites et tout, et j'écris pour plusieurs personnes, et souvent, franchement, ça passe quasi tout le temps, ça passe plus que ça ne casse, quoi. Ouais, carrément. Ouais, 90%, on va dire.
D'accord, et quand ça casse?
Bah, je leur dis que bah, c'est pas grave, mais non, en fait, en vrai, ça casse quasi jamais.
Du coup, ouais, déjà, en fait, tu es très ancré dans l'humour et dans le monde du spectacle. Du coup, et donc dans l'improvisation, tu as participé à l'Impro Club, c'était au mois de, je me rappelle plus, c'était au mois de décembre, je crois, bon.
J'ai participé 3 fois à l'Impro Club, une fois à Nice dans un café où il n'y avait personne,
C'est
où il n'y
vrai,
avait que des
c'était
Anglais.
Loana Bar.
Ouais, personne ne connaît le nom de ce café-là, Onaha, voilà.
Loana Bar, ouais, tout
Et
à fait.
d'ailleurs,
Qui a
j'ai
fermé
fait.
d'ailleurs, depuis. Qui a fermé.
Et c'est sans doute grâce à nous, sans doute. Mais ouais, qui a fermé. Et ouais, j'avais fait un concept d'impro que j'aimais bien. C'était la répète. Je devais une impro qui durait. J'étais tout seul. Hein. Je faisais une impro
Ouais, peut-être d'une minute. Et le dernier mot de mon impro était le premier mot de l'impro suivante.
Tout à fait,
Voilà.
un format très dynamique.
Très dynamique, si bien qu'au bout de 7 minutes, je crois que je suis le seul improvisateur à être appuyé dans... J'ai fait du lactique, quoi. J'avais plus d'oxygène.
C'est vrai que
J'étais
tu, en fait, tu
essoufflé.
tournais en fait, très énergique en fait, en termes de mise en scène. En
Ouais,
fait,
je tournais beaucoup. Ouais.
on était tous fatigués. Enfin, voilà, on sentait en fait, qu'il y
Il y a
avait
des
de
gens qui ont
l'énergie.
vomi, je ne pouvais plus, je faisais tourner la tête. Non, non, je plaisante. Mais c'est vrai que j'ai fait ça, et après j'ai fait où aussi dans un petit théâtre à Jean-les-Pins,
Oui, la tête de Laurent Barre.
qui est très très bien, très très bonne dynamique, très beau public.
C'était à l'instant quel mois, je ne me rappelle plus.
Je pense que c'était au mois de septembre-octobre, un truc comme ça.
Ouais, ça faisait partie des
C'était...
premières représentations. Ouais.
Voilà. Et j'étais avec Olivier et Jérôme avec un G, et c'était vraiment une super soirée. Ça... On devait faire quoi? 1 heure, on a fait 1h30, 1h40.
Tout à
Avec
fait. Avec une chanson mémorable.
à la fin où je faisais un morpion,
Voilà, chanson
voilà.
du Morpion.
Comment je faisais le morpion, montre-moi, attitude. Voilà.
Ça.
Oui. T'as vu comme je suis lâche? Je te demande de faire ce que
Tout
j'ai
à
fait
fait.
et
Et
pour pas que je
j'assume
fasse.
pas. Voilà. Non, parce que, faut pas faire le meilleur profil, il est là. En fait, faut pas. Voilà. Faut que ça reste le meilleur profil. Je vais pour toi.
Et après, j'ai joué aussi au Cozy Comedy Club où c'était blindé aussi, 40 personnes, beaucoup de gens qui avaient jamais vu d'impro en fait. Qui était venu là pour voir en fait du entre guillemets du stand-up improvisé, mais plus stand-up, je pense. Et
Et on était ensemble pour le coup.
on était ensemble pour le coup, et franchement, c'était très très bien, très très belle soirée. Le public était aussi très très content. Alors, en fait, ce qu'il y a de bien avec l'impro, c'est que les gens savent qu'ils vont passer un moment unique. Et même des fois, des trucs un peu moyens, même en humour, bah, ça passe tout le temps parce qu'en fait, c'est tellement unique. Il y a peut-être une adrénaline derrière qui fait que c'est toujours drôle. C'est étonnant, c'est étonnant. C'est beaucoup plus drôle même l'impro que l'écriture écrite, enfin l'écriture comique écrite.
D'accord, ah, bah, c'est marrant en fait, du coup tu me dis ça parce que du coup toi tu me dis que quand on t'entend en fait tu passes beaucoup de temps à faire de l'écriture et on se dit comment ça se fait que du coup tu ne sois pas plus dans l'improvisation parce que du coup tu as quelque chose que tu trouves dans l'écriture que tu n'as
Ouais.
pas dans l'impro.
Alors en fait, souvent quand j'écris, c'est souvent une écriture automatique, donc c'est de l'écriture improvisée. Et j'essaye d'être le plus simple possible dans l'écriture. La chose la plus dure à faire, quoi. Être simple. En impro, c'est plus simple d'être simple. Voilà. Mais c'est vrai qu'en écriture, écrire une blague, c'est compliqué. Franchement, il faut avoir, comment dire, il faut être cadré, il faut être précis. Ah, tu te regardes pour voir si t'es bien dans le champ.
Oui, c'est ça en
Dans
fait.
ton champ.
Je me dis que au niveau de la lumière, j'ai merdé.
Ouais, j'avoue, t'as merdé. Mais tu sais, je pense
Mais
que
c'est pas grave, c'est pas grave, tu vois, parce que c'est pas mon meilleur profil non plus.
on a tous les deux un profil de con, quoi, parce que t'as une caméra. Mais non, mais après, il faut pas le dire, faut pas le dire en direct.
Ça va être coupé sur le montage, c'est pas grave.
Ça va couper sur live.
Ah, bah, prends le podcast en tout cas, voilà, c'est ça. Oui, pour rappel, en fait, juste pour dire, ouais, on est en live, en fait, et l'émission par la suite sera rediffusée en podcast, voilà.
Et d'ailleurs, Anaïk, qui nous a rejoint, salut, elle dit, mais tout le monde se souvient de ce morpion incroyable. Voilà. Donc.
Qui a dû rappeler beaucoup, beaucoup de souvenirs à tout le monde, en fait.
Ah oui, c'est une bonne soirée échangiste qui a. Ça nous a rappelé un truc, quoi, toi, avec le morpion.
C'est une très jolie, très très jolie. Merci Anaïk en tout cas ouais, pour ta réaction. Oui, effectivement, c'était
Un bisou à Anaïk.
un bisou Anaïk. Anaïk qui sera à la fin du mois, d'ailleurs, je le rappellerai en fin d'émission, mais qui sera au Likes pour un Impro Club, au
Ah,
Likes.
génial, à
Voilà, à
Nice.
Nice. Voilà. Du coup, mais en fait, du coup, pour dire, c'est quoi l'impro pour toi en fait?
L'impro théâtrale, c'est la pratique qui permet d'être sur scène, seul ou à plusieurs, et raconter une histoire, et co-construire une histoire entre deux personnes, une histoire qui part d'un thème ou vraiment sans rien, from the scratch, voilà, avec mon accent anglais pourri, où en fait on part de rien, mais qu'on construit quelque chose. Et ce sont des valeurs, moi l'impro, qui sont formidables et que j'enseigne à mes élèves qui
Tu
sont.
donnes des cours?
Oui, je suis enseignant, je donne beaucoup de cours d'improvisation. Chaque semaine, je dois donner, on va dire, ouais, peut-être une dizaine d'heures de cours, quoi, d'impro, minimum. Et ce que je vois, c'est que l'impro transforme les gens, l'improvisation théâtrale. Je donne des cours en fait à des collégiens, mais aussi à des personnes qui sont seniors en situation de recherche d'emploi, où c'est pas facile. Et le fait en fait de faire de l'improvisation théâtrale et de reprendre confiance. Sur un art finalement qui est un peu peut-être bancal pour eux parce que tu vois, créer une histoire à partir de rien, ça fait peur. Et quand ils arrivent à réussir à faire quelque chose comme ça, et ben là, en fait, ils se disent, je suis capable. Et moi qui étais aussi au chômage un petit moment, tu perds très vite confiance en toi. Donc, l'impro redonne confiance en soi.
D'accord, donc tu es un peu, c'est un peu pour toi quelque chose de thérapeutique au final.
C'est thérapeutique, exactement. Mais le théâtre, et même l'art en général, est thérapeutique aussi bien pour les artistes que pour ceux qui regardent le théâtre.
Donc du coup, tu te définis un peu comme art thérapeute quelque part.
Ouais, le bien-être, tout ça, l'homéopathie. Voilà. Je pense que le théâtre, c'est plus. Ça fonctionne mieux que l'homéopathie. En tout cas, quand tu es diabétique, tu peux regarder du théâtre. L'homéopathie, c'est peut-être un peu compliqué.
Par contre, tu ne soignes pas ton diabète avec le théâtre. Enfin, au tuto.
Non, mais ça aide, soit ça aide. Non, mais voilà, c'est l'impro, c'est quelque chose qui est important et que.
Et quelle place ça a dans ta vie au final?
Eh ben, ça a une grande place, en fait. C'est-à-dire que je vis de ma passion. Je vis de ma passion, c'est-à-dire j'enseigne l'improvisation. C'est deux choses que j'aime, enseigner et improviser. Et l'enseignement, ce qu'il y a de bien, c'est que je rencontre toujours des gens qui sont différents, qui ont un passé différent, qui ont une culture différente, qui ont des attentes différentes. Et ce que je vois, c'est que on arrive à se rejoindre. Et c'est en fait, j'allais dire le vivre ensemble, qui est un truc galvaudé, quoi. Mais ouais, ça fonctionne. L'espace de 2 minutes, ça fonctionne. On est ensemble. On
Et
s'écoute.
dans ta vie en fait personnelle en fait ça t'a apporté quelque chose?
Ouais. À ne
T'as
pas
rencontré ma
avoir.
veuve, t'as rencontré ta femme comme ça.
Non, pas du tout. Non, mais en fait, ne pas avoir peur de l'imprévu. C'est moi, je suis quelqu'un en fait qui réfléchit trop au futur. Mon esprit en fait part dans tous les sens. C'est dans et si ça, et si ça, et si ça, et c'est super compliqué. C'est super compliqué pour moi. Et maintenant, en fait, je me dis, ouais, j'ai une nouvelle philosophie un peu plus stoïcienne, on va dire. Moi, je l'appellerais plutôt le je m'en bats les couillisme. Le futur, c'est ça, c'est Balek. Tu vois ce que je veux dire, quoi?
D'accord.
Balek.
En fait, tu es devenu un peu plus épicurien, du coup, en fait.
Oh ouais, mais Balek.
D'accord.
Balek. Non, ouais, on a le droit de dire des gros mots?
Ouais, bah
Ouais.
écoute, je mettrai un truc moins de 12 ans.
Non, mais je vais plus dire de gros mots, mais c'est vrai que je suis comme ça, ouais, je n'ai plus peur du futur.
D'accord. Et du coup, c'est ce que tu enseignes, en fait, aux petits vieux, en fait?
Aux petits vieux, ils sont pas des petits vieux, c'est des seniors.
Ah,
Tu sais que
senior.
les seniors, à partir de 45 ans,
C'est
dans les
vrai.
statistiques
Ah, je suis pas
Pôle
encore
emploi.
senior, c'est cool.
Ouais, dans 6 mois, quoi.
Non, mais... Non, mais je suis pas encore senior,
Mais
ça.
t'as quel âge?
42.
T'as 42 ans?
Ouais.
Wow. Dans 3 ans, t'es plus employable.
Voilà, ça marche bien, donc du coup, tu remontes le moral des gens, toi.
C'est fou. Plus je dis des saloperies, plus les gens ils m'aiment. Je comprends pas, je devrais être sympa en fait.
Parce que du coup, en fait, t'as des, en termes d'humour, un truc comme ça, en fait, t'as des gens en fait, que t'admires, en fait, qui te disent, ouais, j'aurais envie de, enfin, qui t'ont un peu inspiré par rapport à ton humour un peu à base de saloperie.
Ouais, non, alors là, tu me parles des inspirations.
Ouais.
Moi, au niveau des inspirations en humour, c'est ça?
Ouais. Parce que du coup, en fait, quand tu me dis des saloperies comme ça, je pense à Jérémy Ferrari, quoi. Je
Ah
sais pas
oui, j'aime
pourquoi.
beaucoup, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai même fait une masterclass avec lui. Du coup, j'ai suivi des cours pendant 2 jours. Et j'ai beaucoup appris en 2 jours sur ce qu'est l'humour, quelle est sa place, comment ça fonctionne, ce qu'on peut dire ou pas dire, est-ce qu'on peut rire de tout? La réponse est oui, mais dans le dos des gens.
D'accord, ça c'est intéressant.
Oh
Donc on fait un spectacle, mais sans eux. On les invite pas au spectacle.
non, mais non, mais je plaisante quand je dis ça, mais en fait, l'humour, c'est, tu peux dire tout ce que tu veux. Ça dépend en fait l'angle que tu prends. En fait, quand tu fais un personnage qui dit des horreurs, c'est le personnage qui parle. Il ne faut pas que ça soit en fait. Faut que le public en fait sache que c'est un perso que tu fais. Quand il sait ça, tu peux dire toutes les horreurs et tu peux rire des clichés plus que rire des personnes qui subissent ces clichés-là. Voilà, c'est ça en fait mon point
Il
de
y a
vue.
des mouvements, en fait, notamment en improvisation, où on parle beaucoup en fait, des clichés en disant qu'on les met trop en avant, ou que souvent, en fait, c'est souvent comment dire, assez comment dire, dégradant, les clichés, justement, en fait. C'est quoi ta position par rapport à ça? Qu'est-ce que tu
Oui.
penses des accents africains bidons, des accents chinois, ou des trucs comme ça?
Après, moi, je suis assez libertarien et tous les gens ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je fais pas d'accent chinois, je fais pas d'accent africain en impro. Je fais pas d'accent picard, je fais pas d'accent russe, je fais pas. C'est un humour qui peut plaire. Mais moi, en fait, ça me parle pas. En fait, s'il y a un accent africain qui est fait, il faut qu'il y ait une raison. Voilà. Si c'est
Et il faut
juste.
qu'il soit juste aussi.
Bon, il faut qu'il soit juste, mais bon, un accent africain, l'Afrique, c'est un continent. Tu peux pas avoir un accent africain. Tu
C'est
as l'accent
un
du
pays.
Congo, du Bénin, du Maghreb, et puis c'est n'importe quel pays du Maghreb. Hein. L'accent tunisien n'est pas le même que celui du Maroc. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut qu'il y ait une justification. Il faut qu'on sache que ce que tu fais, c'est pour critiquer. Si tu fais quelque chose de raciste, c'est pour critiquer le racisme. Pas en fait pour comment dire renforcer un cliché raciste. Voilà. Donc il y a des gens qui arrivent pas, donc ils en parlent pas, ils font pas de clichés. Mais moi je trouve que les clichés c'est utile pour rire contre ces clichés, contre les a priori.
D'accord. Effectivement, ouais.
Il y a El Chenapon qui nous a rejoint. Alors salut, je t'ai jamais rencontré, mais
Ouais,
on m'a dit que du bien de toi.
salut Thomas. Ouais, Thomas, qu'on attend son retour à l'Impro Club. D'ailleurs, il a.
Il est toujours malade?
Je pense qu'il va mieux aujourd'hui.
Ah, il va mieux?
Ouais, il a failli venir jouer et puis il était malade, effectivement.
Ouais.
Ça le rappelle, effectivement. Ouais, voilà.
Il est toujours en
Mais
rémission.
on l'attend très vite à l'Impro Club. En tout cas, Thomas, on te fait un gros bisou en
Ouais.
passant.
Je dis des
Voilà.
blagues, Thomas. Je plaisante. Tu parlais de rémission, il a pas rebondi. Il a pas entendu.
Cherchais, c'est quoi la prochaine question?
Tu fais de l'impro, hein?
Ouais,
C'est ça, hein?
non,
Tu
c'est.
le rebond, tu crois que
Ouais.
je ça.
Tu mets des questions maintenant, ça va aller. Non, parce que je ne peux pas des questions, effectivement.
Heureusement que t'es dans l'ombre, hein,
quelle est ta réalisation dont t'es le plus fier?
pour. ma fille.
Oh putain, c'est tellement. Alors là, le truc est trop beau, trop mignon.
Ah ouais, il se fout de ma gueule et tout. T'as des enfants?
Non,
Et ben
voilà.
voilà. Non, ouais, ma fille, donc je suis très fier. Et après, ouais, j'ai écrit des bouquins. Donc je suis fier.
D'accord. Tu as écrit des bouquins. Donc, c'est quoi les bouquins que tu as lus déjà?
J'ai lu,
Que tu as
écrit.
écrit, que tu as écrit, pardon.
Alors, attends, j'ai écrit. Alors, le premier bouquin s'appelle En attendant ce foutu Noël. Mon nom de plume, c'était Jérémy Kamaski, que j'ai lâché, mais qui se vend toujours.
Qui est sur Amazon.
Qui est sur Amazon.
On mettra pour ceux qui s'intéressent le lien d'ailleurs sous le lien du podcast.
Alors, en fait, je suis auto-édité sur Amazon, donc c'est pour ça que c'est bien. Mais il se vend de ouf, quoi. C'est-à-dire que j'en ai vendu quasi 2000.
D'accord.
Voilà, depuis que je l'ai écrit. Et
En quelle année déjà?
je l'ai écrit sur plusieurs années, donc de 2014-2015 jusqu'en 2017, où je l'ai mis, en fait, en décembre 2017, sur Amazon. Et en fait, ça a tout de suite décollé, parce qu'en fait, c'est un calendrier de l'Avent à lire tous les jours, en attendant Noël, mais avec un humour, en fait, comment
C'est des
dire.
nouvelles, ça, c'est des.
Ouais, c'est des nouvelles, c'est avec un humour en fait noir. Il y a plusieurs types d'humour, absurde, noir. J'ai voulu en fait tenter beaucoup de styles de littéraires différents, avec des fois en fait un côté un peu assumé, genre un peu entre guillemets mal écrit, mais c'est vraiment un effet de style. Et des fois en fait mieux écrit, beaucoup plus littéraire ou un peu plus, on va dire, série B, tu vois, dans l'approche de l'écriture. Et en fait, chaque année, à partir de septembre, les gens, ils achètent. Je fais aucune pub, mais les gens, ils achètent.
On parle déjà à Noël.
Il y a eu des bons retours, il y a eu aussi des mauvaises critiques. Au début, j'ai mal pris les critiques.
D'accord.
Ah
Et
ouais.
pourtant, ça fait partie en fait du quotidien du comédien qui regarde un peu les critiques sur son spectacle. Du
Ouais.
coup, t'es pas blindé pour autant.
Eh ben non, mais c'est au début. Parce que quand tu mets autant de temps et tout pour écrire un bouquin et que tu as des mauvaises critiques, voilà, j'étais déçu. Et après, je me suis rendu compte, c'est que c'est aussi comment j'avais présenté le livre. Donc les gens en fait étaient déçus par rapport en fait à l'image qu'ils avaient du livre, plus que le livre en lui-même. Donc après, j'ai pu changer la couverture, j'ai pu changer en fait le résumé, tout ça. Et depuis, en fait, j'ai plus de gens en fait qui sont déçus par rapport à ce qu'ils vont lire, quoi, parce qu'ils savent qu'ils arrivent dans un terrain où c'est quand même de l'humour noir. Voilà. Et donc, en fait, ouais, tout est une image en fait marketing. Tout est une image en fait de. Voilà, qu'est-ce que tu renvoies comme image? Voilà, pour pas que les gens soient déçus. Et toi, en fait, tu restes fidèle à ce que tu veux renvoyer comme image.
D'accord. Et ça te sert, du coup, en tant que, du coup, tu as appris ça en tant qu'écrivain, ça te sert en tant que comédien?
Ah oui. De toute façon, les arts, ils sont transversaux, quoi. Donc, ce que tu apprends dans un art, tu peux l'utiliser ailleurs,
Et
quoi.
comment tu l'as appliqué, en fait, en tant que comédien?
Et bah aujourd'hui, en fait, je m'en fiche des critiques.
D'accord.
Et
Ah, je m'emballe à fond.
exact, c'est-à-dire que quand tu écris un spectacle ou ce que tu veux, toi, tu vois en fait en trois dimensions en fait ce que tu as envie de dire et pas dire. Et tu auras toujours des gens qui vont dire, ah, peut-être que tu aurais pu dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Sur toute
Ça
cette...
arrive beaucoup en impro d'ailleurs.
Oui, mais le problème en fait, c'est que moi, j'ai ma propre identité et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je peux me planter, je m'en rends compte, mais je fais ce que je veux. Si j'ai pas fait ce que tu m'as dit, c'est parce que sans doute, j'ai jugé que moi, quand j'écrivais par exemple un bouquin ou que j'ai fait une impro ou que j'ai fait du stand-up, c'est qu'en fait, je pensais que c'était pas utile. Tu vois ce que je veux dire? Sur le moment. Et que c'est peut-être un cul-de-sac, ton idée. Alors, va commencer à argumenter avec la personne qui croit que son idée est géniale et que toi. En fait, comme si qu'on était finalement au même niveau. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc, les critiques, des fois, enfin, souvent, elles ne sont pas constructives. Comme les critiques positives. Les critiques positives, des fois, en fait, on a aimé ce que tu as fait parce qu'en fait, tu es un pote. Parce qu'en fait, tu es sympa. Et ça, en fait, il faut en fait se dire que bah, c'est
Ça
faux.
n'importe
Tu peux
pas.
les entendre, mais attention, il ne faut pas se reposer sous ses lauriers parce que les critiques positives ou négatives, si elles ne sont pas constructives, ça ne sert à rien.
Donc, c'est-à-dire qu'en fin de... en fin de spectacle, en fait, on te dit, ouais, t'as été super. Tu... Ouais, alors, tes conneries, c'est bon, ça.
Pas du tout. En fait, c'est... avant, je pouvais être là à attendre et tout. Ouais, tu peux me... t'as bien aimé et tout. Maintenant, en fait, si les gens ils veulent venir me voir, ils peuvent venir me voir, mais j'attends rien du tout. C'est-à-dire que moi, si moi, je suis content de ce que j'ai fait ou pas, ou que je suis mécontent, c'est entre moi et moi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi dans une pièce de spectacle, t'as des gens, ils vont me dire qu'ils ont aimé et d'autres qu'ils n'ont pas aimé? En fait, c'est eux, en fait, qu'ils ont reçu, en fait...
C'est comment ils se sont appropriés le truc.
Voilà. Et puis après, peut-être que ils étaient super contents parce qu'ils ont une bonne nouvelle, donc le spectacle est passé crème. Et toi, t'es pas responsable de ça. Ou peut-être, tu vois, c'est une cause peut-être exogène en fait au spectacle qui fait qu'en fait ils ont apprécié ou non le spectacle. Peut-être pas du tout. Hein. Ou peut-être t'as vraiment merdé et que en fait ils ont pas aimé pour la bonne raison que t'as merdé. Hein. C'est possible aussi. Mais ouais, j'écoute plus les critiques. J'écoute plus.
Super.
Parce que toi, t'écoutes les critiques, toi.
Ouais. Ouais, en fait, j'en suis encore sensible, en fait, des fois. La dernière fois, en fait, on a eu une... pour dire, en fait, au dernier spectacle, il y a une... c'était il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, il y a une nana, en fait, qui est partie au début du spectacle, en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'a foutu un coup, en fait, de voir ça, en fait. Et c'est vrai que elle était venue pour voir quelque chose et dès le départ on sentait qu'elle était pas bien cette personne-là en fait qu'elle était pas à sa place que elle se sentait pas bien et elle a fait même si je sais que bon la personne n'était peut-être pas elle-même totalement comment te dire peut-être pas bien dans sa tête en fait parce que du coup c'était ça en fait vraiment qu'on ressentait
Ah, c'est des tarés.
c'était une personne qui était pas très bien
Voilà, pour être politiquement correct, c'est
J'essaie.
vrai qu'on est
Et
filmé.
on est filmé, enregistré, voilà.
Personne qui avait
Et,
des...
mais ça n'empêche que voilà, je me dis,
Fragilité psychologique.
on le, voilà, c'est un petit peu ça. On sentait qu'elle était un peu fragile psychologiquement
Ah,
et
une cassos, quoi. Ah, il faut pas dire ça,
Non, putain!
merde.
Voilà, je mettrai des bips, tu sais, à la fin. Et du coup, en fait, voilà, je l'ai quand même quelque chose, en fait, du coup, qui partent et tout, et même si je sais que des fois, bah, c'était pas forcément par rapport à nous ou par rapport au spectacle, voilà, mais ça arrive.
Mais tu vois, en fait, c'est le truc, c'est que tu as
Ou des fois, c'est des
réfléchi.
Anglais ou des Américains qui comprennent rien, en fait, à nos spectacles aussi, et ça me fait quand même quelque chose, comme
Mais
Lola,
ça te
là.
fait quelque chose parce que tu es en train de supposer quelque chose de négatif par rapport à toi. Alors que, en fait, peut-être elle a reçu un SMS comme quoi sa maison est en train de
Oui, tout à
brûler
fait.
avec tous ses enfants dedans. Je sais
On est dans l'affectif en fait. Quoi qu'on en dise, en
Voilà.
fait, on a beau se
Peut-être elle avait
dire.
mal au bide. Peut-être elle a besoin d'un space-fond. Peut-être elle a besoin, je ne sais rien, moi,
Et tout à fait.
elle avait une
Et
migraine.
peut-être qu'elle a envie de faire pipi et qu'elle ne peut faire pipi que chez elle, on est d'accord? Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là.
Ah d'accord, on est sur le pipi maintenant. Là,
Ouais.
ok.
T'es dans le cassos avant.
D'accord.
Mais du coup, oui, non, effectivement, mais il y a toujours une part comment dire, d'émotionnel par rapport à ça en se disant, on a beau se dire, on s'emballe, mais il y a un truc qui fait que ça touche un peu quelque part. Voilà, ça en fait partie. Est-ce que finalement dans tout ce que tu écris en fait t'as un engagement en fait quelque chose qui te fait vibrer qui un peut-être une ligne de fond sur ton écriture tout ça.
Qu'est-ce qui me fait vibrer?
Ouais, en fait, non. Ça on y viendra après mais c'est plus en général est-ce qu'il y a un sous-texte à tout ce que tu fais en fait par rapport à ce que tu as envie de dire, peut-être une cause, peut-être que des fois, que dès que tu as l'occasion, en fait, tu la fais ressortir.
Non.
Pas vraiment, en fait.
C'était une question fermée, alors. C'est pas.
Non.
Non, en fait, tu veux que je développe. Eh bien, écoute, je n'ai pas d'idée là tout de suite. Ce que je peux te dire, c'est que quand j'écris, j'ai toujours envie de m'améliorer par rapport à ce que j'ai écrit avant. Ce qui est le principe même de l'artiste. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie En fait, tu vois, quand j'écris, surtout de l'humour, le but de l'humour, quoi, c'est de surprendre. Donc j'ai envie de surprendre. Mais j'ai aussi envie de me surprendre moi. C'est-à-dire que maintenant, j'écris avec des thèmes précis où je me surprends à me dire, ah putain, oh, j'allais dire le P-word.
Dis ton gros mot,
Oh
ça.
putain,
Ah, c'est
donc
mieux.
voilà. Et voilà, j'ai commencé à écrire ça, j'avais une idée, mais en fait, je suis parti en écriture automatique souvent ailleurs. Mais cet ailleurs, en fait, est un bel incident. Tu vois, ça me permet en fait de me dire que là, ouais, je sais pas en fait. En fait, voilà, je veux me surprendre. C'est ça en fait l'écriture pour moi, me surprendre.
Et finalement, en fait, c'est pour toi, en fait, finalement, c'est de l'improvisation solo quelque part à chaque fois.
Ouais, à chaque fois. Sauf que là, je prends le temps. Chose qu'on peut pas faire en fait en impro, on peut pas en fait effacer la dernière phrase que tu viens de dire. On peut pas se dire, tiens, en fait, cette phrase que j'ai dit, c'est peut-être un deuxième paragraphe en impro, ah, peut-être j'aurais dû le dire en troisième, ça aurait mieux amené la vanne, tu vois. Moi, c'est très structuré, en fait, dans ma tête.
T'as un peu en fait un esprit assez perfectionniste au final parce que du coup il faut que la blague tombe au pile poil au bon moment en fait ça ne supporte pas en fait l'imprécision en fait l'humour.
Oui, après, j'ai envie de te dire, en art, tout est rythme. Donc, évidemment, en fait, pas perfectionniste, mais je suis quelqu'un qui réfléchit dans un ensemble. C'est-à-dire qu'une blague, par exemple, quand j'écris une blague, je me dis cette blague-là fonctionnera mieux à la fin qu'au début. Voilà. Cette blague-là, en fait, elle est m bonne, mais pas assez puissante pour un début de sketch ou une fin de sketch. Donc, ça sera au milieu. Tu vois? Voilà. Si tu veux, dans les grandes lignes, c'est comme ça que je fonctionne.
Et comment ça se passe en fait quand tu travailles en fait pour quelqu'un, quand tu écris pour quelqu'un en même temps, c'est toujours toi qui écris ou tu imagines la personne en train de jouer ce que tu vas écrire?
C'est les deux. En fait, ça dépend. Il y a plein de gens en fait qui m'appellent, enfin, ils m'appellent, m'écrivent pour que soit en fait je regarde leur texte, puis en fait je fais un audit. Je dis bah là c'est bien, là tu vois, je pense que tu pourrais écrire autre chose. Là c'est faible. Là en fait t'as pas un bon angle humoristique, c'est vu et revu. Tu vois, je peux dire ça, mais j'écris rien. Tu vois, donc ça c'est très rapide pour moi. Je lis et tout et puis voilà. Il y a d'autres personnes en fait qui me disent. J'ai écrit un texte, il est tout pourri, mais j'aime bien ce thème, est-ce que tu peux m'aider? Je suis OK. Donc moi, je lis son texte, après je le mets un peu de côté, et j'écris à ma manière. Moi, c'est beaucoup plus, on va dire, quand les gens ils écrivent, surtout les débutants en stand-up, ils écrivent d'une manière un peu, on va dire, anarchique. Je sais pas si on peut dire, c'est pas le bon
Bordélique.
mot. Ouais, bordélique peut-être. Moi, en fait, quand j'écris, je sais qu'il y a toujours la première phrase, et ensuite, je sais qu'il y a la punchline. Prémisse, punchline, prémisse, punchline. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je sais qu'à la fin de chaque phrase ou paragraphe, je sais que là, je sais qu'il y aura un rire. Après, les gens, ils ont ri trois fois rapidement. Je me dis, peut-être, on va les laisser un petit peu reprendre leur souffle, tu vois, peut-être 10, 20 secondes en plus, pour après envoyer une plus grosse punchline. Donc là, ils rigoleront un peu plus. En fait, c'est beaucoup de psychologie, quoi, en humour. Beaucoup de psychologie.
Et t'as écrit donc du coup, c'était un peu pareil, t'as écrit un bouquin d'ailleurs justement, mais sur ça.
Voilà, j'ai écrit Les secrets de l'humour et du stand-up pendant le Covid. En fait, pendant le Covid, le premier confinement, j'ai écrit deux bouquins. Voilà. Et je pense que je me rends pas compte, mais j'ai l'impression d'avoir raté mon premier confinement. Alors, perdu du temps, quoi. Alors qu'en fait, j'ai écrit deux bouquins et je me suis mis à la méthode assimile sur le grec ancien. Voilà.
Tu t'es mis à du grec ancien?
Mais moi, je kiffe, j'aime bien.
Mais pourquoi?
Et pourquoi pas? Parce que
Non, parce que du coup, c'est
j'ai.
pour déclamer du texte grec.
Pas du tout, c'est pour pouvoir connaître une langue et parler avec personne d'autre que moi. Non, non, j'aime bien, en fait. Peut-être que je pourrais dire que je suis philologue, quoi. J'aime bien les vieux textes. J'aime bien, en fait, le vieux français. Là, on peut. Moi, j'ai du gargantua. Ouais, de rappeler. Ouais, j'aime bien voir en fait comment c'est écrit en vieux français et puis comment c'est en français actualisé entre guillemets. J'aime bien qu'est-ce que j'ai vu? François Villon, la poésie de François Villon. Voilà, mon père il m'a offert un bouquin, une collection prestigieuse, je m'en rappelle plus, de chez Gallimard. J'aime les textes. De toute façon, à la base, moi, je voulais pas faire du théâtre. Hein. À la base, moi, je voulais être écrivain. Être tranquille et pas être dans la lumière comme ça et tout, tu vois.
Raconter des histoires, en
Et
fait.
ouais, moi, je voulais raconter des histoires. J'étais fait pour ça. En fait, le truc, alors, vraiment le tout début, tout début, tout début,
On rembobine.
rewind. En fait, moi, je suis parti en Australie et pendant que j'étais en Australie, j'ai pris des notes tous les jours. Et je me suis aperçu, en fait, que, bon, j'avais fait 5 ans d'études de droit. Et en fait, j'étais en Australie et je me suis aperçu, moi, ce que j'aimais, c'était écrire. J'adorais écrire mes mémoires, j'adorais écrire, j'avais de très bonnes notes et tout, mais moi, en droit. Et en fait, moi, je me suis aperçu, moi, ce que je kiffe, c'est écrire. Donc, je voulais être écrivain. Donc, si j'ai écrit après, en attendant ce foutu Noël, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'était en fait pour être édité. Je crois que c'était Albin Michel qui ont failli m'éditer, mais après, ils m'ont dit, en me disant, oh, ben, finalement, après deux ou trois vérifications, plutôt non, parce que, un, j'étais pas connu, et deux, en fait, ils disent que les Français ne lisent pas de nouvelles et qu'ils aiment pas ça. Sauf que, si, finalement, j'en ai vendu à peu près 2000 sans pub.
Est-ce que ça aurait été avec la pub ou avec un truc de, enfin, avec toute la puissance en fait de l'éditeur en termes de communication?
En fait, j'ai envie de te dire, est-ce que l'éditeur fait beaucoup de pub pour les gens, pour les petits auteurs, on va dire?
Non, pas
Parce que
tellement.
Amélie Nothomb, avec BD, tout ça, eux, c'est les grands.
Bah oui, il y a des gens qui le suivent, ils ont déjà un public et
Ils ont
tout.
déjà un public, tout ça. Mais quelqu'un qui n'est pas connu, qui fait son premier livre, qui est content, qui est édité. Toi, c'est. En fait, c'est pas être édité le plus important, c'est être lu. Donc, ouais, l'auto-édition, voilà, ça a été cool. Mais moi, en fait, je me suis mis au théâtre il y a plus d'une dizaine d'années
D'ailleurs,
pour
tu continues
apprendre.
en fait, tu joues en Tibérin de façon de temps en temps.
De temps en temps, du théâtre, c'est un peu
Ouais.
classique. Mais en fait, moi, je me suis mis au théâtre pour apprendre à écrire des dialogues. Je voulais vraiment apprendre à écrire des dialogues, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, ça m'a plu. J'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre classique, j'ai joué des grands textes. Voilà.
Après, je crois que je t'avais vu dans la pièce, c'était une pièce épopée grecque.
C'était Lysistrata de
L'Isistrata,
Aristophane,
voilà, tout à fait.
mis en scène par Cédric Garboyant et Éric Laguigné. Voilà, donc c'était vraiment une pièce très très drôle et qui a 2400 ans.
Tout à fait.
Voilà.
On peut, hein, juste pour résumer très rapidement, en fait, c'est les femmes qui se révoltent et qui font la grève du sexe pour que les hommes arrêtent de se battre.
Voilà. Donc c'est très très drôle et on a l'impression plus que c'est féministe. Sauf que, à l'époque, Lysistrata, quand ça avait été joué, c'était pendant l'été, moins 400, je sais pas quoi, c'était pendant il y avait des concours de comédie à l'époque. Ils écrivaient des pièces, ils se moquaient en fait des politiques ou quoi, et puis ils faisaient des concours de comédie. Aristophane a plutôt gagné, mais donc il est encore connu aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'était que donc ils jouaient avec des masques, mais que c'était des hommes. Donc en fait, quand c'était des hommes qui jouaient des femmes, ils singeaient, entre guillemets, ils imitaient des femmes pour mieux se moquer d'elles. Voilà.
Donc c'est pas si féministe que ça en fait.
Donc c'est pas du tout féministe, mais c'est ça la force en fait des adaptations. Et quand on reprend un texte, c'est qu'on peut le réadapter à son temps. Et comme on l'a adapté nous en 2020, 2000, ouais, 2021, et ben en fait, ça sera pas adapté de la même manière dans 30 ans, en 2050. Tu vois ce que je veux dire?
Ça, c'est la force du
Et
théâtre.
c'est la force du théâtre. Et c'est ça qui est bien. Bon, après, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué dans Le Misanthrope de Molière, j'ai joué dans Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Si loin, si proche Orient, j'ai joué dans Ionesco, La cantatrice chauve, qui était vraiment aussi un gros
Un
succès.
grand classique.
Voilà, un grand succès aussi quand on l'a joué. Très drôle, de l'humour absurde. Et en fait, toi, tout ça, Aristophane, Ionesco, je me disais, mais pourquoi ça fait rire? Et pourquoi il y a des gens qui écrivent des trucs qui ont 10 ans et ça ne fait plus rire? Tu vois? Comment être mémorable? Comment durer dans le temps? Tu vois? Et je me suis dit, mais c'est comment ça fonctionne? Tu vois? Et en fait, j'ai fait comment s'appelle un premier spectacle solo où je devais monter sur scène et dire mon livre et lire mon livre en attendant ce foutu Noël. Sauf que moi, tu vois, je suis comédien. Je n'ai pas envie de faire une lecture, je m'en fiche. Donc j'en ai profité en fait pour faire une lecture humoristique. Donc j'ai fait une lecture de mon bouquin et j'ai fait des sketchs. Tu vois ce que je veux
D'accord,
dire?
ouais.
Et là, à partir de là, je me suis dit, mais ok, je fais des blagues, quasi toutes les blagues que j'ai écrites aussi, ce qui était fou, alors qu'en fait, je suis pas fait pour être humoriste de base, tu vois? Toutes les blagues que j'ai écrites, en fait, ont fonctionné. C'est parce qu'en fait, je sais écrire. Ça, au bout de 10 ans d'écriture, plus même, ça fait quoi, 15 ans d'écriture, tu sais en fait quel est le mot qui est important, tout ça et tout. Des fois, juste un déterminant est important, tu vois, tu t'en rends pas compte. Et je me suis dit quand même, il y a un système, il y a des patterns, il y a des façons de procéder, tout ça. Et en fait, aussi, j'avais pas envie d'attendre 10 ans pour être drôle. Parce que souvent, on dit, pour faire ses armes en humour, il faut attendre 10 ans. J'ai pas envie d'attendre 10 ans, j'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres passions, le grec ancien, hein, tu vois. Et en fait.
Très utile pour le repas de Noël. Enfin, je parle un peu grec ancien. Est-ce que tu savais que ce mot voulait dire ça? Entre le sel et le poivre, le sel vient du mot grec. Attends. C'est ma parole. Bah, moi aussi, je vais peut-être apprendre deux ou trois cours.
T'inquiète. Et donc je sais plus, tu m'as perdu en fait.
Non, tu disais en fait que. Bah non, bah, je me suis perdu aussi.
Non, mais voilà, s'il y a des gens qui suivent sur le site, quoi qu'ils nous disent. Voilà, non, mais en fait, tu vois, quand j'ai écrit donc voilà ce premier spectacle, je me suis dit, bah, quels sont ces patterns-là? Et j'ai fait mes recherches de ouf, quoi. Comme moi, je faisais un mémoire de droit, tu vois. Je me suis dit, voilà. Et j'ai écrit ce que je pensais être juste en humour ou pas. Il y a aussi mon expérience théâtrale d'improvisateur. Mais le théâtre aussi. Qu'est-ce que c'est l'humour? J'ai fait une masterclass avec Jérémy Ferrari, comme je t'avais dit. Et en fait, avec ça, et avec aussi les échos que les Américains ont sur comment ça fonctionne l'humour, tu vois, d'un truc très, vraiment très, très pro, en fait, j'ai fait ma tambouille et j'ai fait 1000 pages de notes. Et sur ces 1000 pages, j'ai résumé en 200 pages environ, pour voir en fait ce qu'est la comédie. Et c'est tellement passionnant. Je ne comprends pas en fait pourquoi les gens pensent que la comédie en fait c'est futile ou c'est pouet-pouet. Non, c'est tellement passionnant l'humour. C'est-à-dire que tu as des genres, tu as des sous-genres. Le slapstick, tu connais le slapstick?
Pas du tout. Qu'est-ce que
En
c'est que le
fait,
slapstick?
le slapstick, c'est un truc qui était très en vogue dans les années 20, dans les films des années muets, où en fait, tu vois, quelqu'un qui marche en fait sur une peau de banane, il tombe, ça fait rire. Tu vois? Quelqu'un qui a une planche comme ça, il dit allez au revoir, c'était une planche
Et
en
il se
peau de banane,
tourne et
puis
il
il se
donne
tourne
un...
et il donne
Oui.
un coup. Et il fait oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, ok, je marche, paf, et il redonne un autre coup. Ça fait rire. En fait, c'est l'élément surprenant, l'élément aussi, je pense, dans l'humour. Ce qui fait rire, c'est que on a peur pour lui, mais étant donné en fait qu'il a pas si mal que ça, ce stress-là est transformé en fait en
Tant qu'il
rire.
meurt, pas, ça va.
Ouais, voilà.
Il a droit à une commotion cérébrale, mais du coup.
Mais tu vois, en fait, c'est un humour un peu vieillot, mais je pense qu'on peut réutiliser par touche dans certains spectacles, tu vois.
Et du coup, toi, tu l'utilises dans les spectacles, en improvisation aussi, j'imagine.
Bah, en fait, il faut être, quand on est impro, t'es tout seul, donc c'est compliqué, tu sais, apprendre à trébucher, apprendre à tomber. Ouais.
Tu fais pas de cascade.
Non, vaut mieux éviter, parce que surtout quand c'est improvisé, tu peux te faire mal. Donc, non, ouais, j'évite. Voilà. Mais après, tu vois, tu as d'autres types d'humour. Tu as l'humour noir, qu'est-ce que c'est? L'humour d'observation, qu'est-ce que c'est? Tu vois, l'humour d'observation, tu observes un truc de la vie de tous les jours. Voilà, Gad Elmaleh, par
Ce que font les
exemple.
stand-uppers au final.
Ils font ça. Alors, ce qui est bien avec en fait, l'humour d'observation, c'est que c'est pas un humour en fait, qui va diviser les gens. Tout le monde se reconnaît. Donc, en fait, c'est un humour en fait, bienveillant, qui parle à tout le monde. Donc, en fait, c'est bien si tu veux avoir tout le monde.
Et quand je vais à une caisse, quand je vais au supermarché et que je vais dans la queue d'une caisse, je suis toujours dans la caisse où c'est bloqué, où la queue est bloquée. C'est ce genre de
Voilà,
truc-là.
après il faut que tu le transformes. Ça c'est une anecdote et il faut que tu la transformes en fait à ce que ce soit
Une
drôle.
règle générale.
Ouais.
C'est pour un truc. Est-ce que du coup, en fait, toi, tu te définis pas comme stand-upper, mais comme one-man show, en fait, comme quelqu'un qui fait du one-man, plus que du stand-up.
Franchement,
Et apparemment, il y a une limite, enfin, il y a une frontière entre les deux.
ouais, une frontière. Après, je pense qu'aux États-Unis, elle est moins coupée la frontière. Je sais pas.
Comment tu as défini, en fait, toi, enfin,
Alors, est-ce que le stand-up, c'est être sur scène et parler avec des gens du public et raconter aussi l'histoire de sa vie, tu vois. Après, t'es pas obligé de parler que de ta vie, tu peux parler aussi de politique. Tu peux parler. Lenny Bruce parlait de politique, il parlait pas de lui. Enfin, il parlait de lui, mais il parlait pas que de lui, tu vois. Il utilisait l'humour, en fait, comme une arme politique. D'ailleurs. Les services secrets américains, ils avaient un dossier épais comme ça quand il est mort à 38 ou 39 ans, Lenny Bruce, tu vois.
D'ailleurs, j'ai partagé une story il n'y a pas trop longtemps sur Facebook, en fait, il est mort à 40 ans, quelque chose comme ça, peut-être?
40 ans, ouais,
Ouais,
peut-être,
40
bah,
ans,
un truc comme
voilà.
ça, ouais.
Il a ouvert pas mal de portes, enfin, il a dit plein de trucs que tous les autres n'osaient pas dire, en fait, finalement.
Exactement.
Une grande liberté de parole.
Une grande liberté de parole, une grande liberté de ton. Ouais, donc c'est ça qui est bien dans le stand-up, c'est que tu peux parler de toi. Souvent, les gens, ils parlent d'eux. Mais tu peux parler aussi de ce que tu vois ailleurs. Et il y a un truc qui fonctionne pas trop en France, mais qui fonctionne plus en Angleterre, par exemple, c'est les one-liners. C'est-à-dire que tu fais une phrase, une prémisse, et ta punchline. Les gens rient. Tu dis une autre phrase qui est complètement déconnectée, et tu fais ta punchline, les gens rient. Voilà. Ça vient surtout, on va dire, peut-être des années 40, 50, où, tu vois, en fait, il y avait des gens qui faisaient des one-liners comme ça. Ta 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 ta. Et après, t'avais quelqu'un derrière, tu vois.
Ce qu'on a gardé un peu, c'est les rires forcés dans les séries aussi, ça, c'est un peu ça.
Ouais, mais tu vois, c'est devenu en fait tellement caricatural de l'humoriste que quelqu'un de pas drôle, tu vas te moquer de lui en faisant, tu vois. Et ça a même
Ça,
traversé les
c'est.
frontières, parce que chez nous, en fait, qui c'est pas notre culture, quoi, et ben on peut le faire, tu
Et
vois,
on
tu fais une
comprend tout
blague
de suite.
nulle. Voilà, on comprend tout de suite. Mais c'est pas la culture trop française, ce genre de truc. Non, nous, on est peut-être attaché plus à une écriture un peu plus développée, je sais pas. Moi, je sais que j'ai fait des passages où je faisais quasi que
T'as fait des passages, je veux dire, de
de stand-up.
stand-up?
Ouais, ouais, ouais.
D'accord, tu fais stand-up où?
Bon, comme m'invite, mais après, c'est vrai que j'y vais quand même à reculons, quoi, alors que les gens, ils veulent y aller, ils veulent y aller à fond et
Ouais,
tout.
il y a un gros engouement, en fait, dans le stand-up. En fait, il y a
Ouais.
beaucoup de gens, en fait, qui se lancent et qui, bah, je pense, enfin, qui fait du stand-up actuellement, c'est Pablo Caillot,
Ouais,
qui
qui fait
fait du
très très bon.
stand-up, qui est très très bon. Je vois plein une génération, enfin, je vois plein de gens qui se lancent, notamment au Bobard, en fait, à
Ouais.
Nice. Du coup, en fait, comment ça se fait
Que quoi?
que les gens se lancent comme ça, cet engouement-là, et que toi, au contraire, tu te dis, bon, c'est trop ma tasse de thé. Et pourtant, c'est. Alors, moi, je le vois avec ma vision d'improvisateur, en tout cas, je me sens assez externe à ça, à ce monde-là. Comment, enfin, qu'est-ce qui répulse et qu'est-ce qui attire?
Ah, ce qui répulse, je sais pas. Après, ce qui attire, c'est que c'est la nouveauté, que il y a plein de comédie clubs à Paris et que peut-être en province ils veulent faire aussi la même chose. Et ce qui est normal. Et puis de toute façon, avec les réseaux sociaux, de toute façon, ça fonctionne. De toute façon, tu peux être connu du jour au lendemain, tu vois. Voilà. Après, moi, monter pour monter sur scène, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère écrire pour les autres, en fait.
D'accord.
Mais par contre, après, c'est vrai que moi, quand j'écris un spectacle, moi, je me dirige plus vers le one man plus que le stand-up. Voilà.
D'accord, c'est une question en fait de couleur en fait
Ouais.
finalement.
Parce qu'en fait, ce qui est bien en fait pour le stand-up, alors c'est bien et c'est attention, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir fait du théâtre pour monter sur scène, être drôle et tout casser. T'as pas besoin de ça. Par contre, tu sais, pour 6 minutes. Par contre, quand tu veux faire 1 heure de spectacle, moi souvent je vois des spectacles d'humour où au bout de 30 minutes en stand-up, je me fais chier. Voilà. Parce qu'en fait, ça manque de rythme, par exemple. Ça manque. C'est toujours la même chose, je suis plus surpris. Tu vois, parce qu'en fait,
Ça
tu
prend
vois,
le cul, généralement.
non, oui, c'est pas ça, c'est bien aussi, mais tu vois, en fait, l'humour, c'est être surpris, mais aussi être surpris dans la durée sur 1 heure. C'est-à-dire que si, en fait, tu fais que parler au public, tout ça, si, voilà, on peut vite s'ennuyer. Après, il y a des gens en fait, qui écrivent très très bien, et finalement, ils n'ont pas besoin de ce rythme-là et tout, et puis voilà, quoi, Norman Frisinet, il en prend 1 heure et tout, ça se passe génial, enfin, c'est génial, et les gens, ils adorent, et tant mieux. Moi aussi, j'adore. Après, moi je te dis, moi en stand-up, je préfère les Américains et les Anglais. Voilà. Bill Burr, Jimmy Carr pour moi, il n'y a rien à enlever quoi, dans ses blagues. Il te fait une blague, un rire, une blague, un rire. C'est ça en fait qui m'a donné envie d'écrire de l'humour, plus que de monter sur scène en fait. Parce que monter sur scène, voilà. Mais ouais, moi je préfère les Américains quoi. Louis C.K. à la base. Mais après, des gens un peu moins connus, je tombe sur Reddit en fait, tout le temps sur des gens pas connus et tout, qui me font rire. Voilà.
Au final, c'est eux qui ont l'obligation à être bons pour pouvoir percer, en fait. Ils ont l'obligation de performance, alors que peut-être ceux qui sont déjà connus, bah, voilà, plus sur un public déjà conquis quelque
Ouais.
part.
Après, tu sais, moi, vu que je viens de l'impro, du théâtre, tout ça, j'aime bien le one man parce qu'en fait, tu peux parler au public, briser le quatrième mur, mais aussi après créer des personnages, faire des sketchs, et puis en fait, tout le temps expérimenter des nouvelles choses. Quelqu'un qui fait que du stand-up et qui sait pas jouer, ça va être compliqué de se lancer dans un one man, tu vois. Et il faut être calé, il faut avoir un bon metteur en scène qui connaisse en fait, tes forces et tes faiblesses.
Toi, tu fais la mise en scène aussi pour ceux que tu
Alors,
coaches?
non, mais quand j'écris, j'écris les didascalies, je dis là, attention, là, il te faut un petit silence. Attention, là, tu mets l'accent tonique sur ce
Voilà,
mot-là.
tu mets déjà des prémices de mise en scène en fait.
Ouais, parce que ça, c'est l'élément qui dira que c'est important. C'est-à-dire que dans une phrase, le aussi peut être très très important. Ta 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 ta, et il faut que aussi, tu vois, il faut vraiment que ça soit fort, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et j'ai
Ouais.
écrit aussi la mise en scène. Moi, ouais, j'ai fait des mises en scène un petit peu. J'ai fait la mise en scène de Philippe Zéro, qui a fait qu'un seul spectacle. Je crois qu'il a joué deux ou trois fois, alors qu'on avait bossé pendant un an.
C'est
Mais
dommage.
lui, voilà, après, c'est un copain. Il y a Thibaut Dalmasso, pour qui, en fait, lui, il écrit son spectacle et je l'aiderai dans la mise en scène, qui joue donc au mois de juin. Voilà.
Juin 2000,
2024, pardon.
2024, hein, où ça?
À Antibes.
À Antibes, d'accord.
Voilà. Moi, donc avec Thibaut, on est en train de finaliser le spectacle qu'on va écrire, qui sera un one-to-man show. Donc c'est un duo, mais ouais, c'est un one-man show à deux, quoi. Ça va s'appeler Hollywood, et c'est sur le thème en fait de Hollywood. Tu vois?
Le patchouli
Non, 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 sur le cinéma, pardon. Et en fait, on va parler du cinéma. Et en fait, tu vois, les différents genres de films, on va faire des caricatures de stars. On va parler des producteurs, de certains effets sur le monde du cinéma, comme l'ère MeToo, qu'est-ce qui s'est passé avant MeToo, après MeToo, et que comme quoi en fait finalement c'est très bien ce qui s'est passé hein, pour l'ère MeToo, où tu avais des prédateurs
Et qui ça continue apparemment
et
en
ça
fait.
continue apparemment parce
Il
que
y
tu
a
vois avec
Judith Godrèche en ce
tu
moment en
vois
actualité.
exactement. Donc oui, ça c'est important en fait que c'est une industrie, et comme chaque industrie en fait il y a des choses pas très très joli, tu vois, et que y a du favoritisme, et que en fait c'est qu'une histoire de sous, et que voilà quoi, si t'as envie de réussir là-dedans c'est compliqué. Donc tu vois, je suis parti de là et j'ai écrit en fait des sketchs, et des sketchs en fait que je fais en scène, que j'écris des persos avec à chaque fois des énergies différentes, une façon de se tenir qui est différente, un phrasé qui est différent, une écriture aussi de blagues qui est différente à chaque fois. Et ça, ouais, ça demande peut-être plus de travail que juste raconter sa life, quoi. Et je dénigre pas, hein, quand je dis
Non,
ça. Je
non, c'est
dénigre
différent, c'est un
pas.
travail différent, on va dire.
C'est un travail qui est complètement différent. Ouais.
Et en termes de spectacle improvisé en même temps, est-ce que tu as des projets en fait
Alors là, plus du tout. Franchement, c'est vrai que, à part toi, quand tu m'invites pour la Pro Club, plus du tout. En fait, au bout d'un moment, je m'étais dit, par rapport au match déjà, j'ai fait le tour. C'est bon, ça m'a saoulé. Je trouvais que c'était toujours la même chose. Voilà, les points, tout ça.
C'est très redondant en fait au bout d'un moment.
Ouais, ça me. Et donc après, il faut créer des concepts. On a créé une troupe avec Sacha Frollat, qui
C'est
s'appelait les
les
Ouillés.
ouillets.
Elle a fait son petit temps, c'était juste avant le Covid, quoi. Et Sacha, qui est un très très grand acteur et improvisateur que je connais depuis maintenant quasi 9 ans. C'est vrai que moi, quand je joue avec lui, un petit rictus ou quoi, on savait qu'on s'était compris, on était dans une écoute totale. Voilà, là, lui, il a lâché l'impro, il est à Paris, il fait une école de mise en scène, il a fait le conservatoire, c'est quelqu'un en fait.
Et en dernière année, il me semble.
Non, il est en M1 de mise en scène, il est à Paris et c'est quelqu'un qui râle moins. Voilà, avec sa compagne. Olivia,
Olivia.
Lucida, ils iront tous les deux. Il y avait aussi dans le groupe, il y avait Tony Laurenceau, qui lui avait pas fait trop d'impro, mais en fait il avait un naturel, mais de ouf. On l'avait intégré direct dans la création de la troupe. Et aussi Sarah, qui était aussi une improvisatrice, qui a joué beaucoup à Nice, tout ça. Et en fait, on a fait. Il y a l'Olivier aussi, le Roland, qu'on embrasse. Et en fait, on a fait plusieurs spectacles au Toucan, tu te rappelles, avant que ça ferme. Et en fait, comment dire?
Le Toucan qui était au Château-Neuf de Grasse.
Voilà. Et en fait, c'était vraiment un spectacle en fait, qui était génial. Les gens sortaient, disaient, on a l'impression que c'était écrit d'avance. Et quand on te dit
C'est un
ça,
très beau complément pour les
c'est.
spectacles
Ouais.
d'improvisation.
Ouais. Et les gens, après, ils disent, on reviendra. On reviendra. Et on y revenait et tout. Et voilà.
Et du coup, depuis, en fait, tu t'es dit, ouais, on s'est fini, en fait, c'était ce groupe et pas autre chose.
Bah, alors, Sacha, lui, il est parti dans le conservatoire, donc il est parti. Puis après, il y avait Tony aussi, lui, c'est un auteur de BD. Et il rencontre un grand succès dans ses BD. Elles sont traduites en anglais, aux États-Unis. Il a été interviewé, je crois, sur France Culture pour le prix de la BD de l'année sur l'Angleterre. Enfin, voilà, c'est un tueur. Et voilà, et moi aussi, j'ai fait mon. Moi, j'ai écrit un bouquin. Maintenant, j'enseigne à l'école du One Man Show à Paris.
Ah d'accord, du coup, ouais, non, ça tu le dis, enfin, ouais, donc tu enseignes à l'école du One Man Show à Paris, ça se trouve où cette école?
Elle se trouve à côté de Pigalle.
D'accord.
Ouais, je ne pourrais pas te dire l'arrondissement. Je connais en fait le métro, je
Dans
m'arrête.
quel métro? Voilà, merci, voilà. C'est pas très loin, c'est bien,
Pigalle,
voilà,
quoi.
Pigalle, voilà. Ok, très bien, donc tu y es chaque semaine, en fait.
Non, pas chaque semaine, j'y vais une fois par mois
Une fois par mois.
environ. Et là, le premier semestre, j'avais surtout les premières années Pro 1 qui se destinent en fait à être des humoristes professionnels, du coup. Voilà, donc là, en fait, en janvier, j'ai vu en fait des personnes qui font ça pour le plus pour le plaisir. Voilà, le soir. Puis je vais les revoir en fait au mois de mars. Voilà, donc en fait, ouais, je donne des cours une fois par mois là-haut pour plusieurs heures. Ça se passe très très bien.
Qu'est-ce qui te frustre dans le métier, dans ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce qui t'énerve le plus?
Je sais pas, j'ai pas assez du temps, ça va pas trop vite. Ça va pas
Ouais,
assez vite,
donc t'es plutôt impatient, les choses ne se déroulent jamais en fait
ouais.
dans
Ouais.
le temps.
Alors en fait,
Qu'est-ce qui
moi,
bloque en fait?
ben c'est le temps.
Ah, non, genre, il n'y a pas assez de temps, mais qu'est-ce qui bloque ce temps? Non, non.
Après, quand tu as une vie de famille, tout ça et tout, ouais, tu as
Ouais.
des engagements, tu as des obligations, c'est normal. Mais ouais, j'ai envie de faire plein de choses. Et j'ai toujours l'impression de ne pas faire assez de choses. Sauf qu'en fait, quand je regarde et que je prends de la distance, je me dis, bah si, quand même. Là, j'ai écrit une pièce sur l'égalité homme-femme et les relations homme-femme. Et c'est un spectacle que j'ai écrit et qu'on va présenter avec Olivia Lucidam, dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, on va jouer dans les collèges. Et donc, en fait, il y a déjà 8 collèges qui nous ont
Commandé,
embauchés,
d'accord.
commandés. Et voilà, comme ça a été une vraie pièce de théâtre où, en fait, on a notre propre
Bah, du coup, c'est cool
vision.
ça.
Ouais, franchement, c'est top. On va commencer au mois de mars. Et j'ai mon spectacle aussi, le duo avec Thibaut,
Donc,
sur le
finalement, la
même
frustration,
sol.
c'est que du coup, tu n'as pas le temps de faire tous les projets en fait que tu as envie de faire.
Mais, tu sais, dans ma tête, j'ai envie d'écrire 4 spectacles en plus, tu vois.
D'ailleurs, tu as matière pour 4 spectacles?
Bah ouais, en fait, tout est source d'humour. Tout, mais vraiment. C'est-à-dire que là, moi j'avais fait un sketch sur par exemple l'utérus migrateur. C'est pas drôle l'utérus migrateur, mais moi quand j'ai
C'est
fait.
quoi un utérus migrateur?
Moi j'ai fait, enfin, pour t'expliquer, j'ai fait du droit et j'adorais l'histoire du droit. Et en fait, dans
D'accord.
le domaine du droit de la santé, je suis tombé en fait sur un truc, c'était l'utérus migrateur. C'est une théorie inventée par Hippocrate où en fait, tous les mois, t'avais en fait l'utérus de la femme qui bougeait dans le corps de la femme. Et c'est pour ça en fait que les nanas, selon lui, hein, étaient rovins.
D'accord. D'accord.
Selon lui, hein. Et la seule façon en fait pour que ça s'arrête, c'était soit les marier, soit les foutre en cloque. Voilà.
Et
En
ça bouge
gros,
plus en fait, ça le
voilà.
fixe.
Et
D'accord.
du coup, en fait, ça vient de là, en fait, le mot hystérique.
Ah, d'accord.
Voilà. Utérus, hystérique, c'est la même chose.
Ouais, t'as plus en moins de batterie.
Ouais, il me reste 5% que ça. Et voilà. Et donc, j'en ai fait un sketch qui était très drôle et tout. Et puis là, il n'y a pas longtemps, il y a un copain, Cédric Garvoyant, il m'envoie une vidéo. Il me dit, ouais, tu vois, Sandrine Rousseau, elle t'a piqué ton sketch. Dans l'hémicycle, elle a parlé d'utérus migrateur. Voilà. Donc, elle m'a. Ok, d'accord.
Sauf que pour elle, je pense qu'elle rigole au moins du truc, je pense.
Ouais. Et après, elle criait et tout, mais c'était pas facile parce que tout le monde l'a hué. Donc c'est pas facile de se faire
C'est du
entendre.
stand-up un peu compliqué.
Le scène est compliqué, mais ouais, elle est sympa, elle est drôle. Hein. Peut-être à ses dépens, mais elle est drôle, Sandrine Rousseau. Mais bon, sur ce coup-là, je pense que j'étais plus drôle qu'elle. Je me la pète, hein, je le sais, je me la pète.
Si, dans une petite dernière question, en fait, c'est que si aujourd'hui il y a un producteur, en fait, il te dit, ben voilà, ou même, tiens, tu gagnes au loto. Tu joues au loto?
Non.
Ben voilà, après ma question, tu joueras. Si un jour tu gagnes au loto,
Ouais.
et on te dit, bon, écoute, avec cet argent, en fait, tu dois faire quelque chose en même temps, pour le spectacle, pour l'impro, pour je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là?
Ben, j'ouvre un théâtre.
D'accord.
Ouais. Un théâtre, mais vraiment spécialisé dans la comédie. Alors, pas que stand-up. Il y aura. Enfin, ouais, moi, mon truc, en fait, c'est vraiment rassembler toutes les formes de comédie qui peuvent exister. Le stand-up, le one-man, les pièces d'Aristophane, tu vois, les vieilles pièces, même des pièces, je sais sais pas moi, un peu comique d'autres pays ou moins connus, tu vois, des pièces comiques de Shakespeare ou de son.
Donc tu veux être directeur de théâtre?
Directeur de théâtre, je sais pas, mais ouais, j'aimerais bien avoir mon théâtre, quoi.
Avec une
Ouais.
programmation libre.
Ouais, une programmation, mais vraiment axée sur la comédie. Mais vraiment une comédie, mais vraiment au sens large, quoi.
D'accord. Parce que en fait, du coup, tu te dis, il n'y a pas de théâtre aujourd'hui en fait qui soit suffisamment universel ou qui fasse une programmation comme toi tu aimerais en fait qu'elle soit.
Ouais, je sais pas. En fait, moi, ce que je veux, c'est montrer en fait que la comédie, c'est quelque chose de sérieux et que c'est passionnant. Et il n'y a pas assez de choses. Voilà. Donc, en fait, oui, il y aurait peut-être aussi des conférences sur certaines parties d'humour. Bah, comment on voit l'humour en
Mais
Italie, par
finalement,
exemple, tu
ça
vois.
engage tout à l'heure en fait. Parce que tu me disais tout à l'heure en fait, je dis non, mais j'ai pas d'engagement.
Ah
Bah,
bah, pour
finalement,
l'instant, j'en ai
oui. Ça
pas. Hein.
ressemble à quelque chose de plutôt politique au final, plutôt un
Est-ce
engagement
que
quelque
je
part.
suis engagé? Est-ce que. Non, politiquement, je n'ai
Bah,
pas forcément envie de m'engager, mais.
ça reste quelque chose qui est assez politique au final et plutôt engagé finalement. Dans cette
Ah, tu
volonté
penses
en
que
fait
l'éducation.
de montrer toute la comédie.
Parce que tu penses que l'éducation, comme ça, à travers une salle de théâtre, hein, j'entends, c'est finalement une. Politique.
Quelque part, oui, quand tu parles d'une chose, en fait, et que tu exprimes un avis, en même temps, c'est toujours quelque chose de politique.
Ouais, moi je vois ça quelque chose d'éducatif, mais éducatif dans le sens, dans le bon sens du terme, pas de l'éducatif ronflant, quoi.
Fait, quand tu formes des gens en même temps, en leur apprenant des choses, en fait, bah, du coup, l'éducation et la politique, c'est souvent lié, en fait. Parce que du coup, en fait, tu enseignes certaines choses et pas d'autres choses. De la manière que tu vas l'enseigner, tu fais aussi de la politique, et c'est pour ça que le gouvernement, en fait, à chaque gouvernement qui a en fait quand il met son nez, bah, il refait le programme d'éducation nationale, parce que tout ça est politisé, tout. Donc
Moi,
l'éducation, en fait, finalement, l'éducation des gens, en fait, finalement, c'est quelque chose de politique.
je sais pas. Après, chacun après. Moi, je suis pas libertarien, mais je suis assez libertaire. Les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. On peut leur proposer. Ils ont le droit de prendre, pas prendre. Peut-être c'est pas le moment de prendre. Peut-être c'est moi qui ai tort. Mais voilà. Moi, je sais pas.
Donc si tu gagnes au loto quand même, t'auras un super théâtre.
Bah, pas non plus un gros théâtre, mais un théâtre
Voilà.
de taille moyenne. Voilà, 800 places.
Et avec ce qui reste de l'argent, tu perds rien.
Non,
Voilà.
non, non, ouais, attends, je sais pas. Tu sais, des fois, un théâtre cosy comme le Cosy Comedy Club, franchement, ça peut être. C'est sympa, quoi, c'est génial.
Oh, c'est cool. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu qu'on te pose? Quelle est la question que tu aurais voulu que tu attendais depuis très longtemps qu'on te pose en fait et qu'on t'invite pour un podcast pour ça?
Oh, c'est con, quoi, je sais pas. Oh là là, j'en ai aucune idée.
Aucune idée.
Quelle question? Quelle question? Je n'ai aucune idée.
Ok, bah c'est bien, ça veut dire que du coup, je t'ai posé toutes les questions auxquelles tu t'attendais.
Ah, ouais. Non, ah oui, peut-être. Là, il y a deux, trois personnes à Paris pour qui j'ai écrit
Ouais.
récemment et qui sont sur Paris. Alors, je vous invite. Elle où la caméra? Elle est où?
Juste là.
Alors.
Le micro est là, donc ça c'est plus important,
Je vous invite à aller voir Inde. Inde, avec qui j'ai participé à l'écriture de son spectacle. En fait, elle a écrit son spectacle et moi, en fait, je musclais en fait en rajoutant des vannes, en disant là peut-être ce paragraphe est un peu long, tout ça. Donc voilà,
il
Inde,
est encore
son
mieux.
spectacle qui s'appelle Fille unique, qui est génial. Et tous les premiers jeudis du mois, elle joue au théâtre Le Pou à Paris. Ensuite, il y a Fabienne Alabré aussi, avec qui j'ai écrit, qui elle, en fait, elle s'est mise à l'humour il y a 5 ans. 5 ans. Bah là, elle a écrit son premier One Woman Show. Et elle joue, je crois, cette semaine et la semaine prochaine à Paris aussi, au Théâtre Le Bout. Et ensuite, elle a été sélectionnée pour jouer à Beaune, dans un festival d'humour, pour jouer devant 400 personnes. Voilà. Donc, c'est trop cool, quoi.
Super.
Et en plus, c'est le samedi. Donc c'est genre le plus beau moment quoi. Et ouais. Et la veille, je crois qu'il y a Gilles et Ben. Gilles Alma et Ben, je sais pas si tu vois Gilles Alma, il jouait dans Nos Voisins là, chez Armado.
D'accord, bon.
Qui est très drôle aussi, j'ai vu son spectacle solo, drôle. Ouais.
D'accord, bon, bah, écoute, voilà, s'il y a des
Et
gens sur Paris qui écoutent le podcast de la Côte d'Azur, en tout cas, bah, voilà, on vous envoie des nouvelles de ce qui se passe chez vous. Le podcast se termine.
déjà.
Déjà, ouais, on a fait une belle heure. Je crois que c'est un record d'ailleurs,
Ah
par
bon,
rapport aux
pourquoi?
deux autres épisodes.
Ah ouais.
C'est très bien. David, qu'est-ce que tu vas faire après le podcast?
Eh ben écoute, je vais aller récupérer ma fille qui a une école, qui a son école juste à côté. Voilà, et je vais lui donner son goûter et nous allons aller au parc. Et sans doute que je vais voir Omar du coup, parce que il a aussi ses enfants quand même. Omar, le propriétaire du Cozy Comedy Club, qui est un super comedy club. Voilà, j'invite tout le monde en fait à envoyer un mail à Omar pour être programmé. Alors je sais que ça va peut-être flouder sa boîte mail. Peut-être que je vais proposer mes copines.
Tu veux proposer des copines, je crois que c'est ça.
C'est le
Super.
but.
Je crois que
Voilà.
ce serait sympa pour lui. Je pense qu'il appréciera. Merci Jérémy.
Merci, Mika.
Ouais,
Non, je
tu
plaisante.
auras les notes. Merci, merci d'avoir suivi ce podcast, enfin en tout cas ce live de l'enregistrement du podcast. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de te demander en fait, mais tes prochaines dates, tu es sur scène bientôt ou pas?
Le 4 avril 2024 à Antibéa.
Voilà, 4 avril 2024.
Venez voir Hollywood. Ça va être politiquement incorrect. On peut rire de tout, vous allez voir qu'on peut rire encore plus que de tout.
Super, dans mon programme.
Ah bon, on s'en fout.
Oui,
Bah
non,
non, c'est bien.
je relis mes notes en même temps, tu sais, voilà, je fais en même temps, mais t'as raison. Prochaine date de l'Impro Club, au mois de février, ce sera le 24 février à Jouant-les-Pins, au Petit Théâtre de Laure-en-Barre, où il y aura Hélène Basler et François Rognoni, Eric Maiolino et Mélissa, qui seront donc du coup les quatre comédiens de l'Impro Club.
Génial.
Et la MC sera Hélène, voilà, si elle n'était pas au courant, maintenant elle le sait. Du coup, voilà. Et l'autre date, ce sera le 28 février à Nice, au Lax. Rue, je dirais à chaque fois une bêtise, je crois que c'est Beauvais ou Beaumont, je ne sais plus, bah, au Likes. Et il y aura Anaïck, Jérôme et moi-même pour cet Impro Club, donc en mini-format. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux pour ce live. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les supports de podcasts comme Google Podcast, TuneIn, qu'est-ce qu'il y a, Amazon Music et FM Player et encore d'autres que j'oublie. En tout cas, bah, voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. En tout cas, voilà, le podcast c'est l'Impro Club Côte d'Azur. Voilà, n'hésitez pas à aller chercher l'Impro Club Côte d'Azur.
En tout cas, tu prends bien la lumière.
Voilà. Voilà,
Ah
ça, à voir pour la prochaine fois. Mais le plus important, c'est que toi, tu sois sous la lumière.
oui, tout va bien, moi je suis content.
Merci à tous, à bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.